Chers amis, bienvenue à cette nouvelle lecture du Sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth. Il y a 2000 ans, en transmettant le Sermon sur la montagne, Jésus a donné aux hommes le fondement permettant à chacun, quelle que soit sa culture, d'orienter sa vie selon les lois du royaume de Dieu, c'est-à-dire selon le commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, dont font partie les principes de l'unité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la justice. Aujourd'hui, le Christ de Dieu s'adresse à l'humanité à travers sa prophétesse et messagère, Gabrielle, afin de nous conduire dans toute la vérité. Il approfondit également les enseignements du Sermon sur la montagne et nous explique, avec les mots de notre époque, comment les comprendre et les appliquer. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous lisons des passages du Sermon sur la montagne tirés de l'Évangile de Jésus, un évangile apocryphe, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de la Bible. Puis nous lisons à chaque fois les explications données par le Christ de Dieu. Vous pouvez retrouver ces textes dans l'œuvre de Révélation « Ceci est ma parole, Alpha et Oméga, l'Évangile de Jésus, la révélation du Christ que connaissent les véritables chrétiens du monde entier. » Nous commençons aujourd'hui par un chapitre intitulé « Résiste à la tentation, décide-toi pour Dieu ». Il y a 2000 ans, Jésus de Nazareth enseigna ceci. Entrez par la porte étroite, car étroits sont le sentier et la porte qui conduisent à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Mais grande est la porte et large le chemin qui conduisent à la perdition, et beaucoup les empruntent.
Voici ce que le Christ de Dieu révèle aujourd'hui à ce sujet. Étroits sont le sentier et la porte qui conduisent à la vie, signifie l'adversaire s'invite chez tous ceux qui s'efforcent de suivre le chemin étroit qui mène à la vie. Il leur montre les trésors et les agréments de ce monde, comme il le fit avec moi lorsque j'étais incarné en Jésus de Nazareth. Chaque jour, il faut résister à ce qui est satanique et lui opposer un refus. Celui qui n'est pas vigilant en devient l'esclave. Voyez, tous ceux qui accomplissent les premiers pas en direction de la vie se sentent tout d'abord comme dans un corset et limités. Et cela jusqu'à ce qu'ils se soient définitivement décidés. Car il leur faut abandonner la façon humaine de penser et d'agir qui était la leur jusque-là. Les premiers pas mènent à l'inconnu. Ce sont la foi et la confiance. Avant que ces premiers pas ne soient réalisés, le sentier qui mène à la vie est étroit. Les premiers obstacles à franchir sur le chemin qui mène au cœur de Dieu sont les suivants. Change ta façon de penser et abandonne tes vieilles habitudes humaines. Repens-toi, pardonne, demande pardon et ne pèche plus. Cela signifie pour chacun de faire des efforts et de changer tout ce qui lui était habituel jusqu'à présent. Pourtant, celui qui persévère avec ma force finira par quitter le sentier étroit pour atteindre la grande route de lumière dans le royaume intérieur. Il la suivra avec d'autres pèlerins cheminant dans la lumière vers la porte menant à l'absolu, à la vie en Dieu. Chacun est mis à l'épreuve tous les jours, pour ou contre Dieu. Celui qui, parce qu'il garde tous les agréments humains et tous les aspects de son moi humain, se décide contre moi, ne sera pas confronté à la tentation sur la voie large et sombre qu'il emprunte, car il s'est voué au tentateur. Nombreux sont ceux qui cheminent sur cette voie menant à la perdition. Ils ne sont pas mis à l'épreuve comme ceux qui avancent sur l'étroit sentier menant à la vie. Mais celui qui se voue au tentateur accepte en même temps et sans restriction de subir les récoltes de ses semailles.
Nous lisons maintenant un autre passage du Sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth, intitulé « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Voici ce que l'on peut lire dans l'Évangile de Jésus. « Méfiez-vous des faux prophètes, venant vers vous déguisés en brebis, mais qui sont des loups affamés à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Peut-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? De la même façon, tout bon arbre donne de bons fruits, mais un arbre gâté donne de mauvais fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits n'est bon qu'à être abattu et jeté au feu. C'est pourquoi c'est à leurs fruits que vous discernerez le bon du mauvais. » Par la parole prophétique à notre époque, le Christ explique ce qui suit. À la fin de l'époque matérialiste, l'époque de la convoitise et de la cupidité, de nombreux faux prophètes apparaîtront. Ils parleront beaucoup de l'amour de Dieu, mais leurs œuvres seront humaines. C'est uniquement à ces bonnes œuvres que l'on peut reconnaître un vrai prophète ou un sage véritable, pas au fait qu'il parle de l'amour de Dieu. Cependant, le don de discernement n'est donné qu'à celui qui examine sa propre attitude intérieure. Croit-il vraiment à l'évangile de l'amour désintéressé? En accomplit-il le contenu? Et qu'a-t-il lui-même déjà fait pour son prochain par amour désintéressé? Vous ne pourrez connaître véritablement vos prochains et discerner en eux le bon du mauvais qu'après avoir atteint un certain degré de maturité spirituelle. Celui qui juge encore ses semblables et émet des pensées et des paroles négatives à leur sujet ne peut pas encore les évaluer de façon juste. Il manque de discernement. Il ne fait que juger et n'est pas en mesure de les évaluer. Si vous êtes encore vous-même de mauvais fruits, comment pouvez-vous être en mesure de reconnaître les bons? Celui qui ne met pas en pratique les lois de Dieu ne peut pas développer le don de discernement permettant de distinguer le bon du moins bon et du mauvais. Que celui qui veut évaluer son prochain commence donc par s'examiner lui-même pour savoir s'il sait discerner le juste de l'injuste. Il est tout à fait possible qu'un fruit gâté qui se met en avant en utilisant beaucoup de mots, des paroles et des gestes apparemment convaincants, bénéficie de l'approbation des autres, alors que le bon fruit, lui, soit rejeté. Voyez, qui se ressemble s'assemble. Un fruit gâté se sent plus proche des fruits gâtés que de bons fruits. Par contre, une personne désintéressée est un bon fruit qui se sent proche du bien, de ce qui est désintéressé. Celui qui est désintéressé sait discerner les bons fruits des moins bons et des mauvais. Pour y parvenir, il faut donc soi-même être un bon fruit. Seul le bon fruit sait reconnaître le mauvais. Le mauvais fruit cherche sans cesse à s'allier au mauvais fruit pour agir contre les bons. Les mauvais fruits condamnent, rejettent, jugent et lient. Les fruits bons et mûrs sont compréhensifs, bienveillants et tolérants envers leurs prochains. Ils leur disent ouvertement ce qui ne va pas, tout en les conservant dans leur cœur. Cela signifie qu'ils ne jugent et ne condamnent plus. Je le répète, dit le Christ, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le bon fruit connaît le mauvais fruit, mais le mauvais fruit ne reconnaît pas le bon fruit. Le bon fruit ne regarde que le bien, le mauvais que le mal. Chacun d'eux parle et agit en conséquence.
Nous lisons maintenant un chapitre dont le titre est « Accomplis la volonté de Dieu ». Voici ce que dit Jésus de Nazareth dans son sermon sur la montagne. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui accomplissent la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? » Alors, je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui suscitez le mal. » Le Christ de Dieu révèle à notre époque ce qui suit. Malgré le côté convaincant, apparemment spirituel et cordial de ses propos, celui qui ne fait qu'appeler mon nom, mais n'accomplit pas la volonté de mon Père, est spirituellement pauvre et n'entrera pas dans le royaume des cieux. Par contre, celui qui agit avec désintéressement, sans attendre ni récompense ni reconnaissance, celui-là accomplit la volonté de mon Père. Ses paroles et ses pensées sont de même nature que ses actes. En effet, seules des sensations et des pensées emplies de Dieu engendrent des actes désintéressés. Des pensées contraires à la loi divine génèrent des paroles creuses et des actes égocentriques. Voyez, celui qui donne l'apparence de s'exprimer à partir du « je suis », qui semble donc exprimer ma parole et accomplir des actions en mon nom, et qui en vit bien, celui-là a déjà reçu sa récompense. Il n'en recevra pas d'autre dans les cieux. Par contre, celui qui réalise des œuvres d'amour désintéressé et qui travaille pour gagner son pain quotidien recevra une juste récompense dans les cieux. Voyez, le pain spirituel est la nourriture spirituelle de l'âme. Le pain destiné à nourrir le corps physique doit être gagné par l'accomplissement de la loi, prix et travail. Le pain spirituel provient des cieux. Il est offert à ceux qui se tiennent à la loi de l'amour et de la vie et qui accomplissent également le commandement, prix et travail. Dieu offre aux êtres humains la nourriture terrestre à travers la terre. Les fruits qu'elle porte doivent être récoltés et transformés par un travail manuel, et chaque travail mérite son salaire. Saisissez la différence entre le pain destiné à l'âme et celui destiné au corps physique. Bien sûr, tous deux proviennent de la même source, mais l'un est spirituel et destiné à l'âme, et l'autre est substance densifiée, matière, destinée au corps physique. Ce que le grand esprit, Dieu, donne à ses enfants humains pour nourrir leur corps physique nécessite un travail humain. Le labourage, les semailles, la récolte et la transformation de celles-ci. Pour ce travail, l'être humain doit être rétribué par ses semblables. Seul celui qui agit en tout par amour pour Dieu et pour ses prochains sera accueilli dans le royaume de Dieu.
Construit sur le rocher, le Christ, c'est ce à quoi nous invite le prochain passage du Sermon sur la montagne. Dans l'Évangile de Jésus, on peut lire ce qui suit. C'est pourquoi je compare celui qui entend ma parole et la suit à un homme avisé qui a bâti sa maison solidement sur du roc. Et la pluie vint, les eaux montèrent et les vents soufflèrent autour de cette maison, et elle ne s'effondra pas, car elle était bâtie sur du roc. Et que celui qui entend mes paroles et ne les suit pas soit comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Et la pluie vint, les eaux montèrent et les vents soufflèrent sur sa maison, et elle s'effondra avec grand fracas. Mais une ville qui est construite solidement, encerclée de murailles ou au sommet d'une montagne et bâtie sur du roc, ne peut jamais ni tomber ni rester cachée. Et quand Jésus eut fini de parler, le peuple était étonné de son enseignement, car il touchait la tête et le cœur quand il enseignait et ne discourait pas comme les docteurs de la loi qui n'enseignaient que parce qu'ils en avaient la charge. Dans sa révélation, le Christ explique et approfondit ses paroles. Celui qui entend et suit mes paroles développe sa vie spirituelle. Il bâtit sa vie sur moi, le rocher Christ. Il résistera alors à toutes les tempêtes. Après sa vie sur terre, son âme entrera consciemment dans la vie spirituelle et n'y sera pas étrangère, car son enveloppe humaine vivait déjà dans le royaume intérieur. L'esprit prophétique est un feu qui embrase les prophètes et toutes les personnes illuminées par Dieu. Dieu ne parle pas à travers eux comme parlent ceux qui n'enseignent que parce qu'ils en ont la charge. Que les êtres humains veuillent l'admettre ou non, les prophètes et les personnes illuminées par Dieu se sont toujours exprimés à partir de la toute-puissance de l'Éternel, du Dieu qui parle. Il est écrit, il touchait la tête et le cœur. Ceux qui pensent avec la tête discutent et décortiquent ce que l'intellect, la tête, assimile. Malgré tout, quelques petites graines tombent dans leur cœur. Par contre, celui qui accueille la parole de la vie avec son cœur y réfléchit également dans son cœur et fait tout de suite germer la bonne semence, la vie. En revanche, celui qui veut saisir la parole de Dieu uniquement avec l'intellect devra, un jour ou l'autre, reconnaître, peut-être seulement après plusieurs coups du destin, ce qu'il a rejeté en raison de ses doutes et de sa vanité intellectuelle. Il reconnaîtra que la parole de Dieu, la bonne semence déversée par la corne d'abondance de la vie, à travers les prophètes et les personnes illuminées par Dieu, aurait pu lui épargner bien des choses. La façon dont j'ai pensé, ce que j'ai enseigné et vécu en tant que Jésus de Nazareth servira de référence pour la vie et la pensée de ceux qui vivront dans la nouvelle ère, dans le royaume de paix de Jésus-Christ. Ainsi, je serai très proche d'eux. Ils me salueront en esprit comme leurs frères et ils m'accepteront et m'accueilleront comme souverain du royaume de Dieu sur la terre. Chers amis, c'est sur ces paroles profondes de notre frère divin, le Christ, que se conclut cette lecture du Sermon sur la montagne. Nous prenons maintenant congé de vous dans la conscience que Dieu, l'Esprit libre, vit en chaque âme. Il aime chacun de ses enfants et aide toutes les personnes de bonne volonté à suivre le chemin qui mène à lui, qui passe par la mise en pratique des lois de la vie qu'il nous a transmises. C'est là le chemin qui mène à Dieu en nous. Au revoir et une chaleureuse salutation en Dieu.